was the greatest? Who was the best of all time?
Dossier, le cinéma américain sur les écrans, et pourtant ce n'est pas la saison, les films américains fleurissent, de Rocky Balboa, de Sylvester Stallone à La recherche du bonheur, de Gabriele Muccino, ou de Bobby D'Emilio Estevez à Blood Diamond d'Edward Zwick. Un livre permet de mieux comprendre ce modèle hollywoodien, le cinéma des années Reagan, sorti aux éditions du Nouveau Monde. Un ouvrage passionnant et collectif, écrit par 17 universitaires fous de cinéma, sous la direction de Frédéric Gimelo-Mesplan. Le livre répond à une envie, celle de parler d'un cinéma populaire et à grand succès, de comprendre aussi le modèle qui en est né et qui revient sur les écrans aujourd'hui. Des films méprisés à l'époque, désormais légitimés, on le voit avec la réaction critique par rapport à Rocky Balboa, le dernier film de Sylvester Stallone. Un ouvrage sérieux donc, sur un objet qui ne l'est pas a priori, sur une Amérique qui se replie sur elle-même, ou plutôt même sur le rêve américain, comme on le voit dans les films qui sortent actuellement sur les écrans. Un livre sur l'Amérique qui repense à ses années de gloire, comme le dit Laurent Kasprovitch, le spécialiste de Rocky. Frédéric Gimelo-Mesplan, le coordinateur de l'ouvrage.
C'était justement ça, ici, de prendre vraiment l'objet le plus, excusez l'expression, mais le plus puant finalement aux yeux de la sociologie et de l'université, et de travailler justement en profondeur pour essayer de découvrir quels sont les modes de pensée, les blocages intellectuels qu'on a vis-à-vis de ces films, essayer de comprendre d'une part comment a fonctionné le succès, notamment le succès populaire, et essayer de comprendre aussi pourquoi 30 ans plus tard ces films reviennent avec une fraîcheur extraordinaire, on le voit avec les acteurs, et ont autant de succès finalement. C'était aussi ça, donc il y avait un double enjeu.
On va profiter du fait que Laurent soit là et que ce soit un spécialiste de Rocky, puisque Rocky était un des films phares de ces années réganiennes, et qu'on voit le dernier opus qui vient de sortir, Rocky Balboa, le dernier numéro donc de cette série lancée par Stallone. Alors en quoi d'abord ce film était symbolique pour vous de cette période des années Reagan?
Alors peut-être que les Rocky sont symboliques de ces années Reagan, mais il faut quand même bien repositionner les faits dans leur chronologie. C'est-à-dire que à la fois Sylvester Stallone a su inscrire son personnage dans les années Reagan, c'est-à-dire dans le contexte à la fois géopolitique, on le voit avec Rocky IV, hein, mais aussi à la fois dans le contexte économique, avec Rocky III, c'est-à-dire les années Strass, les années Luxe, hein, les années Payette. C'était aussi ce que certains considèrent comme étant caractéristique des années Reagan. Mais c'est aussi des films qui ont été récupérés par Reagan aussi, Rocky IV et à l'époque Rambo II également.
C'est vrai que c'est une série qui est très... Vous parliez de Rambo, c'est pareil. C'est en adéquation avec un certain état de l'Amérique.
Il est d'ailleurs très touchant de voir à quel point le dernier Rocky revient au premier Rocky. On a un Rocky dans le dernier Rocky qui est très touchant parce qu'il doute. Et c'est un Rocky qui, comme dans le premier, doutait beaucoup. Il doutait de lui-même, de savoir s'il était encore capable de voir un Rocky qui doute à nouveau. Est-ce que ce n'est pas encore une fois l'Amérique actuelle qui doute?
C'est une discussion qu'on a longtemps eue avec les 17 contributeurs de cet ouvrage. Est-ce qu'il fallait en faire des reflets de société? Ou au contraire, est-ce qu'il fallait considérer que la société plutôt avait récupéré les films? Alors c'est une question qu'on a longtemps eue, et elle a été départagée par l'une des contributrices de l'ouvrage, qui s'appelle Pascal Fauvet, en démontrant que finalement, le héros guyanien tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce héros vainqueur de Rocky IV par exemple, porteur d'une idéologie de l'étendard de Saint-Michel, hein, qui terrasse le dragon, image pieuse de la liturgie catholique, hein, et qui est bien reprise d'ailleurs dans un certain nombre de films, mais cette image-là finalement, elle en prend un sacré coup, puisqu'on se rend compte que finalement, le premier Rocky, il est de 76, il est très proche finalement d'autres héros de cette époque-là. Par exemple, le héros de Taxi Driver, de Scorsese, qui est un loser finalement au départ, c'est un perdant. Ce Rocky qui est issu des quartiers populaires et qui rêve de s'en sortir. Et là où c'est intéressant de creuser, c'est que ce fameux héros reaganien, finalement, il a tout un côté carterien, dans le sens où c'est un perdant qui va se relever par la force du travail, du sport, etc., réussir finalement là où les autres ont échoué.
Il faudrait signaler aussi que Rocky était réganien avant Reagan, dans le sens où il gagne en 78 dans le Rocky 2 avant Reagan quand même. Donc finalement, on s'est tous rendu compte qu'on avait du mal à définir ce que c'était que le héros réganien. Est-ce que c'est le personne qui s'est fait tout seul, qui est autodidacte, qui arrive grâce à la force de son courage? Alors à ce moment-là, il y a beaucoup d'héros réganiens avant Reagan.
Un exemple, Will Smith dans La recherche du bonheur de Gabriele Muccino, Bahia Alouache.
À la recherche du bonheur de Gabriele Muccino est inspiré d'une histoire vraie. Ce film raconte la vie d'un loser qui ne manque pourtant pas de qualité. Père modèle, génie des chiffres, homme intègre et respectueux des autres. Mais de toutes ses qualités, c'est surtout une persévérance qui frise l'acharnement, qui pousse Chris Gardner, interprété par Will Smith, à poursuivre envers et contre tout le bonheur.
You gotta trust me, all right?
I trust you.
Because I'm getting a better job. Let me see if I can find you an application for our internship.
There was no salary. It was a way to another place.
Dad, where are we going?
I don't know.
Une obstination qui finit par payer, comme de tradition dans les films qui glorifient le rêve américain. Glorification d'un mythe qui n'empêche pourtant pas une mise en accusation frontale de la façon de vivre à l'américaine, the American way of life, dans sa réalité la plus sombre.
Where are you going? Go to the hospital. Gotta go to work.
There's one guy in here who's gonna be somebody.
This thing's impossible. I can do it.
No, you can't. No one can.
You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it.
Ce sont des films qui vont fusionner l'impression de la réalité et la fiction. Le second point, c'est le déni des autorités, en tout cas le déni de la justice, le déni de la police. Et on le voit notamment avec toute une série de films qui parcourent les années 70 et 80, c'est les Dirty Harry et la série des Charles Bronson, les Justiciers dans la ville, hein, qui sont des films qui se basent éminemment sur la paranoïa des années Carter, hein, de la vague de la sécurité qui parcourait les États-Unis à la fin des années 70.
Ce qui est intéressant, c'est que le mal, il n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Et c'était une grande force du cinéma des années Reagan, c'est qu'il y avait aussi les ennemis de l'intérieur. Voilà, il y a aussi des films qui traitent de l'invasion de la drogue, hein, dans les États-Unis des années Reagan.
Et là, vous les analysez comment?
Les Bot People. Les Bot People aussi, hein, avec l'invasion USA. Hein, c'est des Bot People qui viennent de Cuba. Bon, bien sûr, il y a toujours l'invasion rouge derrière tout ça, bien sûr, mais qui traite quand même de problèmes de société, quand même imminemment contemporains, de l'époque où les films ont été tournés. Ce qui n'est pas sans assez signaler. Le caractère symptomatique de ce type de cinéma, c'est le spectacle. La mise en scène du spectacle, il y a quantité de boxeurs africains qui ont pris modèle sur Rocky pour devenir d'excellents champions d'ailleurs, et pas simplement en Afrique, on en a trouvé un, à Longwy, en Lorraine. Il a été interviewé longuement d'ailleurs dans un chapitre sur la réception.
C'est aussi symptomatique de ces années-là, c'est ce qu'on a oublié de parler jusqu'à maintenant, et ça me fait mal au cœur moi personnellement, parce que finalement c'est toujours les grands oubliés, ce sont les spectateurs ordinaires.
Merci Laurent Kasprovitch, merci Frédéric Jiménez-Mesplan. Entracte, mais ne quittez pas votre fauteuil, on se retrouve juste après les infos avec les ambitieux de Catherine Corsini.